I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, épisode spécial après les GOTY de la semaine dernière qui ont duré, je ne sais plus, à peu près 40 heures de discussion. Aujourd'hui, on a un épisode plus simple, plus tranquille, où on va parler des jeux à venir de 2024. Et de ce qu'on peut attendre et de la grande année de 2024 qui sera, à n'en pas douter, la meilleure année de l'histoire du jeu vidéo, j'en suis certain. Et pour m'accompagner dans cette aventure, je suis Patrick Béja, bonjour, comment ça va? Pour m'accompagner dans cette aventure, on a Jika qui se joint à moi dans un épisode tranquillou.
Ouais, là c'est le matin, c'est l'épisode du matin, on est en mode café, on a un mode voix encore un peu suave, un peu la voix du réveil.
On est assis dans nos gros canapés au coin du feu avec le velours des sur les accoudoirs, tout ça.
Ah bah moi je suis encore en peignoir en train de caresser mon chat là, tu vois, c'est vraiment... Alors non, je suis habillé, je suis désolé Patrick, mais ouais et puis on parle en off, mais je suis un poil fatigué parce qu'on a enregistré très tard hier soir. C'est une semaine au niveau podcast, c'est une semaine assez intense, hein, on a enregistré des podcasts jusqu'à 2h du matin hier, donc
moi je crois que j'ai fait peut-être 10-12 heures d'enregistrement dans la semaine, ces derniers 7 jours. J'en peux plus là.
Ouais.
Plus, genre 5 émissions,
on aime ça, mais
heures,
c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fatigue. Ouais.
Ça fatigue, mais c'est le bonheur. C'est que du bonheur, comme on dit sur certains sujets.
C'est que du bonheur, effectivement.
Mais là,
ce qu'on dit nos enfants.
Ça va être tranquille. Ça va être tranquille. Pas d'actu, pas de sujet à comprendre, à analyser, à traiter, tout ça. Pas de polémique,
pas de choses comme ça.
On va être juste en train de parler. Je vais encore muter mes notifications Discord pour que ça ne vous dérange pas pendant l'écoute. Et on se base pour, comme chaque année, hein, quand on fait ce genre de discussion, on se base pour voir la liste des jeux qui sort l'année prochaine sur l'excellente page gameinformer.com du site gameinformer/ avec le numéro de l'année. Et là, c'est gameinformer.com/2024. Ils font un formidable travail de compilation et de mise à jour sur tous les jeux qui sont prévus pour l'année à venir ou pour l'année en cours par mois. Et alors, on ne va pas évidemment parler de chaque jeu parce qu'il y en a déjà des centaines, mais on a parcouru cette liste et nos souvenirs et on va se limiter à la liste des jeux qu'on attend, ou des gros jeux, allez, on va dire, entre ceux qu'on attend et les jeux qui sont incontournables. Et ça commence fort dès le mois de janvier, et ça continue avec les jeux datés, on va dire, jusqu'à premier, deuxième trimestre un petit peu. Et puis après, il y a toute une liste de jeux non datés qui sont censés sortir en 2024, dont on parlera aussi. Mais pour que vous ayez un petit peu le but de l'émission, c'est que vous ayez une roadmap, une idée de ce que vous pouvez attendre cette année, plus ou moins dans l'ordre chronologique. Prévision déjà, après s'être planté sur 2024, moi je pense que ce n'était pas vraiment la meilleure année de l'histoire du jeu vidéo, mais en tout cas qu'on la retiendra.
2023, tu veux dire
les années. Oui, 2023. Mmh. Est-ce que, à vue de nez comme ça, 2024 sera la meilleure année du jeu vidéo?
Allez, on se mouille ou pas, non? Non, mais
on peut se mouiller, mais...
tu vois, en fait, tu sais qu'on était comme d'hab après avoir fini l'année. En général, tu sais, quand tu finis une année, t'es content, tu fais le bilan. On adore ça. On a tous fait les bilans de l'année, etc.
Je précise qu'on enregistre juste après l'enregistrement du GOTY, deux jours après. Oui, voilà. Donc, on est mi-décembre. Donc, quelques semaines avant la diffusion de l'épisode. Donc, le bilan est encore en cours de digestion.
Ouais, c'est ça. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, franchement, 2024, ça va être pas aussi dingue, tu vois. Et finalement, quand tu regardes la liste, déjà, effectivement, il y a quand même beaucoup de jeux qui m'intéressent. Et aussi, maintenant, avec le recul, faut dire ce qu'il y a, en tout cas de mon côté, la plupart de mes GOTY, c'est souvent, au moins pour la moitié, c'est des jeux que j'attendais pas. Dont je n'avais soit pas entendu parler, soit dont j'ai entendu parler, mais je me suis pas plus intéressé que ça. Donc, C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura, je pense qu'il y aura des surprises. Donc voilà. D'ailleurs, c'est ça que moi que j'attends surtout d'une année de jeux vidéo, c'est d'être surpris par des jeux qui sortent de nulle part, soit des jeux indés, soit des triple A que j'attendais pas, etc. Quoi.
Et effectivement, sur la liste qu'on va vous dérouler, il y a beaucoup de choses qu'on attend beaucoup. Il y a quelques triple A. Il y a aussi des choses qui manquent. On a quelques jeux, notamment chez Sony et Nintendo, on a très peu de visibilité sur ce qu'ils vont nous offrir, nous faire payer en 2024. Alors bien sûr, nous offrir moyen. Dans le cas de Nintendo, c'est particulier parce qu'on imagine qu'ils vont bientôt présenter leur Switch 2 et donc qu'ils gardent des surprises pour annoncer avec la Switch 2. On peut imaginer qu'il y aura des trucs du genre un nouveau Mario 3D ou... Bref, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Un nouveau Mario Kart, peut-être, ou même des choses auxquelles on ne pensait pas. Un Splatoon 4, peut-être. Et dans le cas de Sony, il y a beaucoup de choses qu'ils préparent, mais peu de choses qu'ils ont annoncées déjà pour l'année prochaine. Donc, il y a plein de choses qui pourraient arriver. Je ne sais pas, un truc du genre Wolverine ou peut-être pas deux jeux de Sucker Punch à la suite, chaque année, d'une année sur l'autre. Mais un nouveau jeu de Naughty Dog. Ils ont 12 000 studios, donc il y a des choses qui pourraient arriver. Mais voilà, du côté de Xbox, on a des trucs qui pourraient arriver, dont on va parler, mais Sony et Nintendo, c'est un petit peu le mystère. Et puis, il y a plein de choses qui sont aussi mystérieuses, qui pourraient sortir de nulle part. Des jeux indés, on va vous parler de plein de jeux indés qui pourraient nous séduire. Mais, pour moi aussi, comme tu le dis, après ce gros astérisque, j'ai pas l'impression que ça soit aussi gros que l'année 2023, en perspective en tout cas. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y a pas des trucs qu'on attend.
C'est ça, disons qu'il n'y aura pas... on est une année exceptionnelle où il y a eu un nouveau Diablo, il y a eu un nouveau Zelda, il y a eu un nouveau Final Fantasy. Donc en termes de puissance de licence, on n'aura pas a priori un truc aussi fort. Mais bon, encore une fois, c'est le reste va venir des bonnes surprises. Et voilà. Mmh.
Surtout que l'un des gros trucs qu'on imaginait arriver en 2024, c'est GTA, qui a été daté 2025. Donc il y a tout de suite un truc qui sort du contexte des grosses attentes. Mais du coup, alors lançons-nous sur le mois de janvier. Le mois de janvier, on s'est fait une petite liste tous les deux. Sur janvier et février, il y a à chaque fois 4 jeux qu'on retient parce qu'on les attend beaucoup, parce qu'ils sont excitants ou parce qu'ils sont incontournables. Sur janvier, on a Prince of Persia: The Lost Crown qui sort dès le 18 janvier. The Last of Us Part 2 Remastered qui sort le lendemain, le 19 janvier. Le 26, on a deux sorties japonaises, Like a Dragon Infinite Wealth et un jeu qui, moi, évidemment, me parle plus que les autres. C'est Tekken 8 et ces deux-là arrivent donc le 26 janvier. Donc déjà, dès le 26 janvier, c'est pas timide, quoi. C'est tout de suite sur les chapeaux de roue. Il y a des sorties, alors pas les plus grosses de l'année peut-être, mais il y a quand même des grosses sorties auxquelles on va prêter attention, je pense.
Ouais, janvier, c'est propre. Hein. Enfin, des jeux, déjà que oui. Alors moi, il y a des jeux qui me parlent moins que d'autres, mais comme toi d'ailleurs, mais et pas forcément les mêmes que toi d'ailleurs. Mais c'est bien d'avoir des trucs intéressants des mois de janvier, quoi.
Moi, j'avoue que Prince of Persia de Lost Crown, j'en attends pas mal parce que c'est un peu compliqué parce que c'est les trailers qui sont fous et qui laissent entrevoir un gameplay tellement dynamique et excitant que ça pourrait être vraiment une grosse sortie de l'année dès le 18 janvier. Et ça pourrait être aussi les trailers qui sont tellement bien faits que ça survend le jeu, en fait. Donc, je ne sais pas très bien où me situer, mais cette réimagination de Prince of Persia en une sorte de ce qui a l'air d'être un jeu d'action en 2D hyper dynamique avec potentiellement des éléments de Metroidvania, ça pourrait vraiment, vraiment fonctionner. Et c'est surtout sur le gameplay et bien sûr la direction artistique qui est séduisante. Mais le gameplay a l'air tellement énergique, dynamique, comme je disais, que j'en attends beaucoup.
Ouais, et je suis même tombé sur une preview d'un site anglo-saxon qui confirme qu'effectivement, c'est un Metroidvania. Moi déjà, ça me plaît énormément parce que je trouve que ça colle très bien à l'esprit Prince of Persia. Enfin, je veux dire, le premier jeu de Jordan Mechner, c'était pas Metroidvania, mais c'était un jeu de labyrinthe, c'était un jeu d'exploration. Donc là, on retrouve ça. Et effectivement, il y a l'air d'avoir aussi un dynamisme dans les combats qui moi, me plaît bien. C'est développé par Ubisoft Montpellier, si je dis pas de bêtises, qui, eux, ils avaient aussi l'expérience avec Rayman, mine de rien, de faire des jeux... Alors, Rayman, c'est un pur jeu de plateforme, mais voilà, des jeux quand même qui vont vite, qui sont nerveux, qui ont vraiment un punch assez fort. Et là, ce qu'ils ont l'air de faire sur Prince of Persia, moi, ça me plaît énormément. J'ai une vraie tendresse pour la licence, en plus, moi. Donc ouais, moi, clairement, ça va être un jeu que je vais tester dès la sortie, quoi.
The Last of Us Part 2 Remastered. Alors, c'est un remastered, et puis le jeu est sorti il y a, 4 ans maintenant ? Je ne sais plus. Oui, c'était ça, 2018.
Bon, déjà 4 ans. Déjà 4 ans.
Je crois, ouais, The Last of Us Part 2.
C'est 2020 ou 2021, je sais plus. 2020. Non, moins que ça, ça vient 3 ans, quoi.
On a bien préparé notre émission, tiens. The Last of Us Part 2, sorti, 2020, ok. Donc moins de 4 ans après la sortie. C'est une version définitive, mise à jour PS5. Je ne sais pas si j'aurai le temps de me replonger dedans, j'aurais peut-être envie. J'avais fait le 3 au moment du remaster, enfin j'avais refait le 3 quand il était sorti sur PS4, genre un an après. Je l'avais refait, mais maintenant j'ai plus... Pardon, le 3, le 1, quand il était ressorti sur PS3, genre un an ou deux ans après, il était ressorti, et je l'avais refait, j'avais adoré. Là, je pense pas que j'aurai le temps, mais ça reste quand même une grosse sortie.
Moi, je pense que je vais le refaire. Tu vois, c'est vraiment, c'est un jeu que j'adore vraiment, The Last of Us Part 2, et clairement, je pense que je vais lâcher mes 10€, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est effectivement si on a déjà le jeu d'origine, il y a une mise à jour qu'on peut payer qui coûte 10€, qui permet de passer en fait à The Last of Us Remastered, avec quand même. Bon, après, on pense qu'on veut la méthode, hein, ça reste 10€ pour une mise à jour technique. Et,
c'est pas qu'une mise à jour technique.
Oui, non, mais je schématise beaucoup, mais pour on va dire qu'un jeu qui colle au standard de la PS5. Voilà, mais moi, clairement, je sais que je vais les payer. Et parce qu'en fait, ça fait un moment que j'ai très envie de refaire le jeu, et ce sera l'occasion parfaite, quoi.
Ouais. Je précise, enfin, on en reparlera en janvier, mais c'est une mise à jour comme ça, c'est pas juste. Tu vois, tu cliques sur 3 boutons dans ton interface et c'est mis à jour. Ça, y a un minimum de travail. Donc, le fait tu demandes de l'argent, ils auraient pu l'offrir gratuitement, bien sûr. Et puis, il y a des niveaux perdus qu'ils ont mis dans le truc. Il y a un petit mode. Un mode roguelite. Bon, ils auraient pu le faire gratuitement, mais c'est pas choquant qu'ils le fassent payer, quoi. Maintenant, il y aura d'autres jeux aussi. Et du coup. Like a Dragon Infinite Wealth, est-ce que tu vas te lancer dedans ? Je sais pas, j'ai l'impression que t'es pas trop Yakuza.
C'est la suite du 7.
Là, c'est du 8.
Donc, c'est le retour au format un peu RPG, les combats.
C'est le jeu centré sur Kasuga Ichiban plutôt que Kiryu Kazama. Même si Kiryu est dans le 8 aussi, après ne pas avoir été, enfin, plus ou moins dans le 7.
J'ai un peu joué, figure-toi, au précédent.
Mais alors attends, le précédent, tu veux dire le 7, alors, donc non, celui qui était en RPG ?
Le 7. Voilà,
d'accord, pas le Gaiden ou The Man Who Erased His Name ou Ishin, deux autres qui sont sortis depuis. Okay.
Non, mais ouais. Mais en fait, c'est une série que j'aimerais avoir le temps de faire complètement et de m'investir dedans, mais c'est souvent, en fait, au bout d'un moment, c'est des jeux qui demandent trop de temps parce que ça demande que ce soit le côté très, très narratif où vraiment, des fois, tu lâches la manette pendant 15 minutes. Donc du coup, à chaque fois, sur la longueur, ça finit par retomber. Donc, je vais vraiment attendre de voir ce que ça donne au niveau des reviews, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps et la motivation, quoi.
C'est vraiment des jeux qui sont, pour leur budget, d'une ambition assez, assez folle, parce que tu es sur une petite zone en monde ouvert, mais tu as tellement de choses à faire et tellement de narration bien faite. Les cutscenes, c'est vraiment joué, super bien joué, c'est monté, il y a des jeux de caméra, enfin, c'est clairement avec un budget, mais ça se regarde très gentiment comme un jeu narratif, quoi. Après, t'as plein de trucs à faire à côté, mais même si tu fais que la partie narrative, généralement, ces jeux-là, c'est plusieurs dizaines d'heures. Donc oui, il faut avoir le temps et l'envie. Surtout que, le même jour, il y a Tekken 8 qui sort. Et là, ça devient sérieux. Donc évidemment, à choisir entre Like a Dragon Infinite Wealth et Tekken 8... tu vas aller du côté de Tekken 8, j'en suis sûr.
Bah, écoute, en plus, Tekken, autant sur Mortal Kombat, je pouvais avoir une espèce d'intérêt par rapport au côté nanar ultra luxueux du. Voilà, la violence, elle est le côté un peu nanar ultra luxueux de l'histoire et tout. La Tekken, ouais, non, j'ai vraiment pas grand intérêt pour le truc.
Alors, tu sais quoi ? On verra à ce moment, mais j'ai fait le premier chapitre de la démo qui, au moment où on enregistre, est sorti hier, de la partie solo, de la partie histoire. Et franchement, c'est tellement explosif, blockbusteresque, que je pense que tu pourrais être intéressé. Vraiment, là pour le coup, ouais. On n'est pas du tout comme dans Street Fighter où je te disais « Ah, peut-être, il y a moyen en t'intéressant au jeu de combat, machin. » Là, tu sais, c'est vraiment, je ne sais plus, je crois que c'était Maximilian Dude qui faisait cette comparaison et, ma femme, quand je lui ai décrit et montré un petit peu, a eu exactement la même idée. C'est un petit peu Fast and Furious-esque dans la démesure de ce qu'ils font et dans la manière dont ils ne se prennent pas au sérieux. C'est tellement un grand spectacle, cette aventure solo, ça fait sourire, quoi. C'est marrant. Et j'ai l'impression que t'es pas fan de Fast and Furious, ce qui est un péché en soi.
Je vais te faire une confession, je n'ai pas vu un seul Fast and Furious.
Oh
je suis vraiment... Ah, c'est une série qui je suis vraiment totalement passé à côté. J'ai ça, oh tu vois, il y a des trucs comme ça, des séries de blockbusters, genre pas ça et Transformers, tu vois, par exemple, c'est des trucs...
Ah non, mais c'est pas du tout la même chose.
Non, je sais que c'est pas du tout la même chose, mais je veux dire, en termes de série où il y a eu 15 ouais. épisodes et que c'est. Et il y a 15 épisodes dont la moitié qu'on coûtait 150 millions de dollars, tu vois. Du coup, et puis le problème de ça, c'est que bah, maintenant, il y a quoi ? Il doit y avoir au moins 10 films Fast et. Bah, j'ai juste la flemme de me lancer ouais. dans un truc, tu vois. Et bon.
Ah, voilà. Mais il faut commencer. Donc, non, alors, Fast and Furious, les premiers, tu les oublies, ils sont sérieux. Il faut commencer genre au 5. Et,
ouais, c'est ça, ouais.
et c'est impossible de pas sourire, tu vois, quand tu regardes le truc. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire de plus n'importe quoi-esque de film en film ? Et ça monte en crescendo et ils savent, tu vois, ils savent que c'est n'importe quoi et tu prends vraiment du plaisir.
Ouais, non, mais écoute, mais Tekken, effectivement, je peux avoir une éventuelle tendresse pour Tekken 3 auquel je jouais sur PlayStation 1, tu vois. Mais depuis, et je sais qu'il y a tout un lore qui s'est développé qui est mine de rien hyper complexe. J'ai l'impression des histoires de famille, des histoires incroyables.
Oui,
mais
bon.
Enfin, complexe, non, mais voilà. Mais après, en fait, j'ai un problème tout con, c'est juste que c'est un jeu de combat. Et que, en fait, je n'arrive pas à m'investir dans un jeu de combat aujourd'hui.
Tu sais, il y a tellement de facilité dans le jeu de combat, dans Tekken et dans le 8 en particulier. Tu as un mode, tu appuies sur un bouton, ça te passe en mode, je ne sais plus comment ils appellent ça, moderne, facile. Et c'est encore plus facile que Street Fighter et plus n'importe quoi. Tu appuies sur un bouton pour faire des air combos, un bouton pour faire des combos normales, un bouton pour faire des contres. C'est hyper facile. Le 18, c'est la... Non, c'est le 26. Ah merde, on sera pas ensemble. C'est le 26, c'est un vendredi. La semaine d'après, on est ensemble pour le rendez-vous jeu. On verra si je peux te convaincre. Bref, on va pas faire plus long sur Tekken 8, on en reparlera, mais c'est vraiment le jeu dont je pensais, comme je le disais dans l'émission, j'étais pas sûr. Je me disais, après Street Fighter 6, bon, bah, ils ont un petit peu fait tout comme il fallait dans Street Fighter 6, et j'ai l'impression que Tekken 8 fait encore mieux tout ce qu'il faut, bien, pour attirer les gens qui sont pas forcément familiers de ce genre de jeu. Donc, on verra. Février. Qu'est-ce qu'il y a en février ? Encore trois jeux, dont un remake. Le premier, c'est le 2 février, Persona 3 Reload, que je mentionne parce qu'il y a les fans de Persona qui sortiraient les fourches si je ne le mentionnais pas. Mais bon, c'est pas... Comment dire ? Je vais donner la liste des jeux de février qu'on a notés. Persona 3 Reload, le 2. Suicide Squad, Kill the Justice League, également le 2. Skull and Bones qui sort, et oui, finalement, le 16 février, incroyable.
C'est fou ça.
Et Final Fantasy VII Rebirth, qui pour le coup n'est plus vraiment un remake, ou est-ce que c'est quand même un remake, je ne sais pas, qui sort le 29 février. Donc, Persona 3 Reload, comme je disais, c'est un petit peu particulier parce que la ferveur Persona est évidemment hyper présente dans la population des fans de ce genre de trucs, mais pas que du culte de Persona, comme c'était le cas il y a 2 ou 3 ans, avec la popularité du 4, puis du 5, je pense que ça s'est beaucoup élargi. Mais le 3, ça reste un reload, enfin un remake qui n'est pas aussi ambitieux que ceux qu'on peut voir ailleurs. Et c'est un jeu qui est un petit peu plus ancien. Je ne sais pas s'il aura la portée du 4 ou du 5. Et à vrai dire, j'imagine que non. Mais peut-être. On verra.
Ouais.
Alors là, pour le coup, ça ne te parle pas du tout.
Bah, Persona, ça fait partie. Ça fait encore partie de cette série comme Yakuza, en fait, où je suis quand même intéressé par. Où je trouve le style très cool, l'univers très cool et tout. Mais c'est juste que là, il y a un manque de temps et de manifeste pour m'investir dedans, tu vois. Et puis, tu vois, si je devais vraiment me motiver pour en faire un, ce serait Persona 5 Royal, tu vois.
Bien sûr.
Qui serait probablement le jeu que je devrais faire pour découvrir la série. Mais là, c'est pareil, je suis pas sûr d'avoir le temps, là.
C'est très bien dit. Je pense que pour découvrir la série, c'est certainement pas par celui-là qu'il va falloir commencer. Et ça sera plutôt le 5 Royal. T'as tout à fait raison. Et il est encore dans le Game Pass, je pense, en plus. Donc, ouais, c'est moins... Et tu illustres aussi un truc dont je parle régulièrement depuis quelques années, c'est le fait que le jeu vidéo est tellement vaste, il y a tellement de différents types de plaisirs à trouver dans les différents styles de jeu, les genres, les influences, les origines, tout ça. C'est impossible de tout faire, quoi. Et oui, donc je comprends qu'on fasse une croix sur Persona ou Like a Dragon ou ce genre de trucs, quoi. Et du coup, si on va à l'opposé complet de ce qu'est Persona, il y a Suicide Squad Kill the Justice League qui sort le même jour, le 2 février, et qui là, pour le coup, je dirais, est encore un peu incertain. Parce que c'est un jeu donc, de Rocksteady qui a développé la série des Arkham. La série des Arkham, évidemment, adulée dans ses premiers épisodes, qui a été un petit peu diluée par Warner Brothers, qui a fait faire des jeux par d'autres développeurs qui ont moins bien réussi l'exercice, et qui en même temps, Rocksteady s'essaye visiblement à un exercice également compliqué sur lequel d'autres se sont cassés les dents par le passé, qui est l'exercice de l'hybride entre le vrai jeu solo et le jeu service. Évidemment, le spectre de Avengers les regarde de sa tombe. Ouais. Et est-ce qu'ils vont réussir ou pas ? Ce qu'on a eu, alors il a été retardé d'un an le jeu, il n'y a pas si longtemps. Ce qu'on a entendu ces derniers temps et ce qu'on a vu avec les vidéos de présentation, tout ça, corrige un tout petit peu le tir, parce que c'était assez inquiétant ce qu'on avait vu il y a un an. Est-ce qu'ils vont réussir à redresser la barre ? On ne sait pas, on verra donc sans doute en janvier quand on en saura plus, et puis en février quand il sortira, quoi. Tu le sens comment, toi ?
C'est compliqué parce qu'à la base, le projet, il m'intéressait un peu parce que c'est Rocksteady et que c'est un studio que j'apprécie. Et ils ont quand même prouvé que la trilogie Arkham, qui savait faire des... Enfin voilà, la trilogie Arkham, elle est quand même importante, tu vois, dans l'univers des jeux vidéo adaptés, faire des super-héros en jeux vidéo.
Il faut insister là-dessus. Rocksteady, c'est ceux qui ont le mieux réussi le jeu vidéo de super-héros jusqu'à Spider-Man, qui peut-être est en concurrence avec eux. C'est un monument, quoi. Et Rocksteady, c'est pas des rigolos. C'est pour ça que si j'avais vu Suicide Squad jusqu'à maintenant sans que ça soit Rocksteady derrière, j'aurais plus d'espoir. Mais comme c'est Rocksteady, je dis, faut pas les enterrer tout de suite, quoi.
C'est ce truc qui fait que je m'intéresserais peut-être au truc. C'est clairement pas le jeu sur lequel je vais me jeter Day One. Tu vois, je vais attendre de. Parce qu'en plus, j'ai pas un affect particulier sur Suicide Squad, tu vois, sur l'univers et tout ça. Donc, bon, voilà. J'ai tendance à me dire, voilà, si c'est Rocksteady, ça peut peut-être être réussi. Ils ont évité les pièges de ce qui. Voilà, de notamment côté Marvel avec Avengers. À voir.
C'est aussi un aspect important, c'est que les héros de Suicide Squad sont carrément pas connus, enfin du jeu en particulier, ceux qu'ils ont choisis, à part Harley Quinn, qui a une certaine visibilité, et une image grâce à Margot Robbie, et qui est la seule personne qui brille dans les films de Warner Brothers. King Shark, Kangaroo Man et Deadshot, que tu confonds toujours avec l'autre.
C'est pas les trucs les plus charismatiques, c'est pas les héros les plus charismatiques, quoi.
Dur, mais en même temps, s'ils les réussissent, tu vois, c'est aussi un blank canvas, tu vois, c'est une feuille blanche, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et de ce que j'ai vu, franchement, tu t'y attaches vite. Mais bon, on va voir.
Ouais, ouais, faut voir.
Skull and Bones, le 16.
Oui, bah là, on verra.
Est-ce qu'on y croit encore?
Après, moi, bah, disons que comme c'est un jeu de pirate, moi, je trouve ça, de base, ça, je trouve ça fun, tu vois. Après, je viens de voir qu'il y a des previews qui viennent de tomber, là, justement. Je jouais pendant jeuxvideo.com, on a fait une preview. Ils n'ont pas l'air d'être méga enthousiastes, donc déjà, c'est compliqué. Je sais pas, c'est vraiment, je demande vraiment qu'à voir. Je demande qu'à être agréablement surpris. Hein.
Ouais.
Et voilà, quoi.
Je suis un peu pareil. C'est marrant parce qu'il est noté encore Stadia au moment où j'ai fait les notes. Il est censé sortir sur Stadia qui n'existe plus. Ça donne un petit peu le...
Je trouve que Stadia va revenir.
Ah, peut-être, ouais.
Stadia exprès pour lui.
Je ne suis pas spécialement fan de jeux de pirates. Je n'ai pas adoré les batailles navales dans les jeux auxquels j'ai joué, les Assassin's Creed dont il est un petit peu issu et puis il a été extirpé. Oui, le développement a été tellement chaotique, j'y crois pas trop. Ouais, voilà, c'est genre, ils se sont dit, oh, Black Flag, ça marche bien, si on en faisait un jeu. Bon, peut-être, hein, peut-être qu'on sera agréablement surpris, je suis pas sûr. Faut noter aussi que pour Ubisoft, non seulement ils ont eu leurs problèmes de culture d'entreprise, de toxicité, de harcèlement, dont j'ai l'impression qu'ils ne sont pas sortis avec les honneurs, ou en tout cas pas encore, mais en plus, au niveau des jeux, ben, c'est très faible depuis quelques années. À un moment, il va falloir qu'ils sortent des trucs. Prince of Persia, ça a l'air cool, mais c'est pas ça qui va light the world on fire. Assassin's Creed Mirage, l'année dernière, bah, c'était pas non plus... C'était cool, hein, il avait l'air sympa, mais c'était pas non plus l'immense succès interplanétaire. Skull and Bones, je sais pas, je crois pas. Il y avait le Mario & Rabbids, le nouveau, il y a quelques temps. Mais il va falloir sortir un petit peu plus de lourd bientôt, quoi, parce que... Alors, il y a un Assassin's Creed... Enfin, il y en a plein qui sont prévus, les X, les Japon, les Infinite, les X, les Red, les Jade sur mobile et tous ces trucs. Et il faut sortir des jeux à un moment, quand même, quand on est un studio, ce dont Microsoft pourrait s'inspirer aussi, comme moto, d'ailleurs.
Ubisoft, ouais, c'est pas évident, quoi. Parce que là même, tu vois, ils ont sorti leur avatar dans l'anonymat plus total, alors que le jeu est plutôt correct, en fait, au final.
J'irai pas dans l'anonymat le plus total, mais clairement, là aussi, c'est pas...
Non, mais je veux dire, à toute fin décembre, il n'y a pas eu de campagne de promo, quasiment. Mmh. Enfin, tu vois, pour un jeu comme ça, c'est quand même étonnant, tu vois.
Ouais. Final Fantasy VII Rebirth, du coup, le 29. Ah.
Voilà.
Moi, voilà, ok, je te laisse parler.
C'est un des jeux que j'attends le plus cette année. Clairement, parce que moi, le remake, c'est un jeu qui m'avait cueilli complètement par surprise au moment de sa sortie. C'est un jeu que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé sur plein de points. Voilà, il y avait tout un univers qui m'avait plu. Le système de combat était vraiment formidable et tout ça. Là, je suis curieux parce que voilà, j'ai cru comprendre qu'il y aura une ambiance très différente puisqu'on va sortir de Midgard. Donc, on va moins être dans ce délire un peu ville. Cyberpunk, c'est un peu fort, mais voilà, ville futuriste. Mais bon, je suis très curieux, j'ai très envie d'y jouer parce que voilà, ne serait-ce que pour avoir la suite de l'histoire, quoi. Sachant que moi, en plus, je fais partie de ces rares personnes peut-être qui joueront au jeu sans avoir joué à l'original. Donc, je vais vraiment découvrir tout ça. Donc, voilà, quoi.
Ça m'inquiète un peu parce que déjà la fin du premier, enfin du remake, si t'as pas joué à l'original, tu comprends rien à ce qui se passe. Parce qu'il y a des histoires parallèles, machin.
Moi, il a fallu qu'on me l'explique pour que je comprenne le truc, mais oui, effectivement, c'était un peu perdu, quoi.
Et moi, j'ai été un petit peu échaudé ces dernières années par les jeux japonais et leurs fins. Autant il y a des trucs que j'aime beaucoup, autant les fins, c'est généralement trop long, trop délire, trop machin. Et bon, même si c'était pas Tales of Arise, bah, le remake m'a un petit peu déçu sur la fin. Mais il n'empêche, je vois les images, les trailers de Rebirth, et ça, moi, pour le coup, qui ai joué au 7 à l'époque et qui l'adorais à l'époque, bah, ça me rappelle des choses. Donc, je sais pas, on verra. Le 29, s'il n'y a pas d'autres grosses sorties, peut-être que forcément, je me plongerai dedans aussi, quoi. Mars, on a Alone in the Dark le 20, Princess Peach Showtime le 22, que je note parce que c'est un jeu Nintendo, et voilà. Et Dragon's Dogma 2 le 22 également. Évidemment, Alone in the Dark, c'est...
Alone in the Dark, à fond, même si, bon, on n'est pas à l'abri d'un truc raté, hein, parce que ça va rester un truc qui met un double A... ce sera pas voilà, mais franchement, de tout ce que j'en ai vu, l'ambiance, le côté retrouver cette horreur des années 30 dans le sud des États-Unis, il y a vraiment un truc, une patte dans le jeu que je trouve très cool, ambiance un peu jazzy, etc. Enfin, vraiment, ça a l'air chouette.
C'est un remake, c'est une réimagination, c'est un remaster.
Non, c'est un C'est un reboot, enfin c'est un nouvel épisode quoi. Il y a, pour le coup, il y a, c'est pas un remake du premier hein, parce que
d'accord. C'est Alone in the Dark 2024. Quoi.
Voilà, c'est 2024. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait partie. C'est Survival Horror que j'attends vraiment. J'espère pas être déçu parce que pour le coup, on peut complètement être déçu. Ça peut vraiment être raté. J'espère pas. Mais bon, je suis. Et franchement, je suis presque rassuré qu'ils l'aient repoussé parce que voilà, je préfère qu'ils prennent leur temps, qu'ils sortent quelque chose de réussi plutôt que de sortir un jeu raté quoi.
Écoute, tu vis selon le leitmotiv de Miyamoto, c'est bien. Donc, Princess Peach Showtime, je l'ai mentionné parce que c'est un jeu Nintendo.
Ouais.
C'est pas que je l'attende particulièrement. Peut-être pour mes enfants, parce que, oui, comme voilà. Vous le savez, mon fils a très peur de jeux où il y a beaucoup de méchants. Donc, peut-être que là, ça sera un petit peu moins impressionnant. Mais... Évidemment, la visibilité, comme on disait en début d'émission sur Nintendo, bah, elle est nulle parce qu'ils ne communiquent pas sur ce qui va venir après. Et peut-être que déjà le 22 mars, on aura eu des informations sur ce qu'ils comptent faire cette année et sur la le successeur de la Switch. Rappelons que la Switch 1 était sortie en mars, si je ne m'abuse, avril ? Oui, mars. Donc il n'est pas impossible qu'il nous fasse une sortie de la première moitié de l'année pour la Switch 2 avec une annonce et une sortie resserrée, auquel cas Princess Peach serait moins centrale dans la présence
oui,
de
Nintendo. Bah, un poil moins effectivement, mais puis ils seront obligés d'arriver en plus avec au moins un gros jeu, tu vois. Donc que ce soit un Mario Kart, un Mario 3D ou Metroid Prime, même si j'y crois pas trop, mais ouais.
Ça serait possible qu'ils sortent, tu vois, parce que Metroid traditionnellement n'a jamais fait d'énormes chiffres. S'ils sortent une Switch 2 avec à la sortie un Metroid Prime 4, ils s'en vendent des palettes entières du Prime. Alors que s'il sort après un Mario, un Mario Odyssey 2 par exemple, je dis n'importe quoi, ou tu vois, un truc du genre,
oui, c'est vrai.
Évidemment, il va passer beaucoup plus inaperçu. Alors que s'ils font Switch 2 plus Metroid Prime 4 en mars. Et Mario Galaxy 2 en juin, là, ils font...
c'est pas mal. Et en plus, pour le coup, Metroid Prime pourrait être une très bonne vitrine technologique pour la console. Parce que, tu vois, c'est un FPS futuriste, il pourrait vraiment mettre en avant, j'espère en tout cas, le fait que la console sera vraiment beaucoup plus puissante que la Switch 1. Donc, bon, après, vraiment, là, on est dans l'ordre du fantasme et de la spéculation en plus. Hein.
Ouais, alors moi, je dirais spéculation, mais pas plus. Hein. Il y a 2-3 ans, quand on commençait à parler de Switch Pro, ou il y a même au moment de la sortie de la Switch, quand on s'est à parler de Switch Pro et de ce genre de choses, c'était de la spéculation, effectivement. Là, que ça serait incroyablement étonnant qu'on n'ait pas entendu parler de la Switch 2 ou du successeur de la Switch d'ici avril, mai, juin. Tu vois, si mi-2024, on n'a pas au minimum une présentation claire de ce que ça va être, parce que, encore une fois, soyons clairs, Nintendo, à partir de maintenant, il n'y a rien de prévu à part... Enfin, rien. Il y a genre 2-3 jeux minimes qui sont prévus. C'est pas possible que ça reste comme ça. C'est juste pas possible du tout.
Non,
donc, c'est pas de la spéculation si forte que ça, quoi.
Non, mais moi, je parlais plus de Metroid Prime, hein, la spéculation. Mais par contre...
Ah oui,
Et puis après, Nintendo, ils ont quand même l'habitude depuis pas mal de temps d'annoncer tout au dernier moment, quasiment. Hein, à part un Zelda, éventuellement, tu vois. Mais ils vont faire Nintendo Direct à un moment donné. Et puis, tu vas savoir que pour montrer les jeux qui vont sortir dans les 6 prochains mois. Et voilà, quoi.
Et je pense qu'il n'est pas du tout impossible que... alors, on aurait peut-être eu des leaks de la fabrication si ça commençait. Je ne sais pas combien de temps avant il faut commencer à fabriquer les machines, mais... de je sais pas quand ils vont lancer la fabrication, comme ça provoque plein de leaks, si ça prend 3 mois, genre, je dis un truc au hasard, c'est à ce moment qu'ils vont parler de la console, et donc il est pas impossible que ils présentent la console et 3 mois plus tard elle soit dans les magasins, tu vois, un truc du genre, ça me surprendrait pas. Oula.
Ouais, complètement.
Du coup, le dernier jeu de mars, c'est Dragon's Dogma 2 le 22, qui est vraiment un jeu dont on ne sait pas trop quoi penser, puisque le 2, peu de gens y ont joué, le 1, peu de gens y ont joué, mais c'est un jeu qui a une certaine aura culte, et comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, c'est l'approche du RPG occidental, troisième personne, genre Donjons et Dragons, de Capcom, donc du développeur japonais, qui est intéressant par différents aspects de gameplay. On en reparlera à ce moment. Mais du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que ça va faire une Monster Hunter World où tout le monde va découvrir ce jeu et ses qualités? Ou est-ce que ça va passer un petit peu inaperçu? Je ne sais pas trop.
Capcom, ils sont quand même sur une bonne lancée depuis quelques années. Hein, donc, en tout cas, en termes de retentissement médiatique, etc. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Et le premier a, comme tu disais, vraiment une aura. Ce n'est pas un jeu qui a été qu'un carton, mais ça, il a vraiment un capital sympathie, j'ai l'impression, très fort pour pas mal de joueurs. Et surtout que ce deuxième jeu, ce qu'on en a vu, il a l'air quand même solide. Tu vois, ça a l'air d'être un vrai bon action RPG dans un univers un peu un monde ouvert et tout. Surtout qu'on aura, enfin, tu vois, ce genre de jeu, on va pas en avoir beaucoup cette année, j'ai l'impression, tu vois. Il y aura pas, évidemment, Elder Scrolls 6 sortira pas cette année, tu vois, par exemple, sortira
non,
pas.
Non, mais il y a Avowed, par exemple. Il y a Avowed qui est censé sortir.
Qui est censé sortir, ouais, bien sûr, il y a Avowed, mais je sais pas ce que ça va donner déjà. Et puis effectivement, en termes de qualité de production, en tout cas, ça a l'air plutôt. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'action RPG médial fantastique de cet acabit cette année, l'année prochaine. Quoi.
C'est vrai. Je dirais que s'il y a un jeu Capcom dont ils veulent que ça soit une grosse sortie qui peut se planter, je dirais que c'est celui-là. Mais il peut aussi réussir. Donc,
ouais, c'est possible.
On verra. On passe à avril, mai, juin. Bah, il y a rien en mai. Il y a un jeu en avril et un jeu en juin. Alors, ce premier jeu d'avril, c'est le premier de deux jeux spéciaux Kassim que j'évoque spécialement pour notre ami. Et c'est Eiyuden Chronicles 100 Heroes, dont il ne tarit pas d'éloge. Enfin, en tout cas, il a énormément d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il est très fan de Suikoden. Et que c'est la même équipe, on va dire le même créateur, qui est derrière Eiyuden Chronicles 100 Heroes. Il arrive le 23 avril. C'est compliqué de recréer la magie d'un jeu sorti il y a 30 ans. Et généralement, les créateurs de ces jeux n'y arrivent pas trop. Donc, on verra. Il est très attendu. Il a réussi son Kickstarter, évidemment, comme tous ces jeux-là. J'imagine que ça ne sera pas aussi raté que merde, comment il s'appelle ? Machin 3, le... Ah, Shenmue, voilà. Shenmue 3, qui était une catastrophe.
Ah, oula,
mais oui, pardon.
Oula.
Mais bon.
Oui. Apparemment, il sera dans le Game Pass. Alors, ça sera dans le Game Pass, a priori, c'est ce que je vois.
Le Eiyuden Chronicles, tu veux dire ?
Attends, je confonds. Ah non, c'est Vendredi Rose. Je sais pas, là, il parle de Rising.
Oui, alors, Eiyuden Chronicles Chronicle Rising, c'était une sorte de jeu qu'ils ont fait avant, qui était un side-scroller assez moyen, qui était une sorte de prélude. Bon, oui, on l'a pas. C'est aussi pour ça que je me dis, est-ce que Vendredi Rose, c'est pas du tout le même jeu. Hein. Là, c'est un RPG avec une centaine de héros qui sont tous intéressants, qui ont leur relation, machin, comme Suikoden, quoi. Mais bon, on verra. Et le deuxième jeu de ce deuxième quarter 2024, c'est le spécial Patrick. C'est Destiny 2 The Final Shape, qui est une extension plutôt qu'un jeu. Et là, vraiment, il y a énormément d'enjeux pour ce jeu-là, évidemment, parce que Destiny, on en a parlé avec Bungie, est dans une position un poil compliquée. Et Sony regarde ça en se disant, bon... À un moment, il faut réussir des choses parce que sinon, nous, on va reprendre les choses en main. Et The Final Shape est la conclusion de The Light and Dark Saga. Même si j'aime toujours Destiny, bah, clairement, on n'est pas depuis quelques années à un niveau qui est satisfaisant pour continuer à croître, ou en tout cas à se maintenir au niveau de Destiny 2. Et The Final Shape a beaucoup d'enjeux. On verra en juin, c'est le 4 juin. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, mais...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah. Ensuite,
écoute, j'espère pour toi que tu ne seras pas déçu. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite.
C'est ça. Je pense que comme de nombreux auditeurs de l'émission, alors il y a un groupe, une communauté, bien sûr, Destiny, comme dans toutes les communautés de jeux vidéo, qui est sans doute aussi impatiente de voir ce qui se passe avec The Final Shape, et une grosse partie des auditeurs et des auditrices qui se disent comme toi, bon, bah, j'espère pour toi que ça sera bien, mais ça ne me concerne pas. Pour le reste de l'année, en daté, il n'y a que deux jeux qu'on a retenus. Warhammer 40 000 Space Marine 2, le 9 septembre, et Black Myth Wukong, le 20 août. Ouais. Warhammer, c'est plutôt ta cap, je pense.
Bah, Space Marine 2, ouais, je suis assez... Déjà, ils l'ont repoussé, mais alors vénère, hein, parce qu'il devait... Je ne sais plus quand il devait sortir, mais notamment, moi j'avais joué en preview un petit peu là, l'été dernier, tu vois. Et c'était très prometteur. Alors, c'était assez bancal niveau technique, mais bon, parce que voilà, la preuve, le jeu est repoussé d'un an, quoi. Par contre, il y avait vraiment un truc assez nerveux. Alors, c'est vraiment un TPS un peu à l'ancienne, un peu à la Gears of War, hein. Mais ne serait-ce que par rapport au fait que tu diriges un Marine, ce qui est très lourd, qui est, voilà, tu sens bien chaque pas, chaque machin. Par contre, il y a vraiment, tu t'es face à une nuée d'ennemis, c'est les tirades. Merde, non, j'ai n'importe quoi, c'est quoi les ennemis dans... Bon, bref, je vais pas commencer à dire n'importe quoi sur Warhammer, parce que je vais me faire attraper par les fans du jeu. En fait, moi, à la base, l'univers de Warhammer 40 000, je le connais très peu, mais c'est plus le style de jeu, voilà, TPS, un bourrin presque à l'ancienne qui me plaît bien. J'avais bien aimé Bold Gun, alors qui est vraiment pour le coup un rétro FPS, hein, dans le même univers l'année dernière, enfin cette année plutôt.
C'est difficile à suivre Warhammer, ils font tellement de trucs en jeu.
Ouais, c'est le bordel. Hein. Là, il y a encore eu, ne serait-ce que ce mois-ci, il y a eu deux jeux qui sont sortis, il y a Rogue Trader et un autre jeu là. C'est incroyable la quantité de jeux Warhammer qui sortent, quoi. Donc non, je pense que voilà, j'espère que ça va être réussi. C'est développé par, alors c'est édité par Focus, c'est fait par, je sais pas, un jeu français, je crois pas. Mais c'est typiquement le genre de petit TPS, enfin de TPS que je me ferai avec plaisir à la rentrée, quoi.
Écoute, j'espère que tu ne seras pas déçu.
Merci Patrick.
Et puis Black Myth Wukong, c'est un jeu un petit peu, je vais pas dire particulier, mais c'est un jeu dont je suis curieux de voir ce qu'il donnera. C'est en gros ce que ça a l'air d'être. C'est un Dark Souls fait en Chine qui a été mis en avant pour montrer les capacités de cette génération de consoles depuis quelques années déjà. Et qui, à côté de ça, donc il est très beau et très, très classique dans le style Dark Souls, mais. Je dirais que c'est l'un des premiers jeux de ce style, peut-être à part chez miHoYo ou HoYoverse, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, qui vient de Chine et qui va nous montrer les sensibilités et les capacités des développeurs chinois dans ce genre de jeu. Donc c'est pour ça que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que ça ne sera pas un gros jeu de l'année, mais peut-être une surprise. Par contre, les sensibilités culturelles de cette région, de la même manière qu'on a vraiment eu une partie de notre connaissance du Japon qui a été informée par les influences culturelles qui passaient à travers les jeux vidéo, et ben je me demande si là, il ne va pas y avoir une arrivée des développeurs et de la culture chinoise par ce biais, à voir. Parce que dans les jeux qu'on a aujourd'hui, c'est moins le cas. Et là, ça a l'air vraiment d'être un truc, un gros jeu... traditionnel, de joueurs traditionnels core qui vient de Chine. Donc, je suis curieux de voir ce que ça donnera.
Ouais, puis depuis le temps, mine de rien qu'il a été annoncé, lui. Pareil, hein, ça fait un bon moment. Et déjà, ça a l'air très, très beau. Je me souviens, à l'époque, ils avaient montré les premières vidéos, c'était un des premiers jeux qu'on voyait qui tournait avec le Unreal Engine 5, je crois. Alors, depuis, il y en a eu plein, hein, mais c'est toujours très, très joli. Hein.
On est d'accord. Et puis, on arrive dans les jeux non datés. Si vous pensiez que c'était un peu léger, il y a d'autres choses qui arrivent encore. On a divisé ça en deux catégories. Les grosses productions, les AAA, et puis les jeux indés derrière. Pour les AAA, on a... Alors, pas GTA, comme je le disais tout à l'heure. GTA 6, ça a été daté pour 2025. Possiblement début 2025, mais on verra. Mais pour les autres gros AAA, il y a Star Wars Outlaws, dont on attend beaucoup de choses. Avowed, dont on attend beaucoup de choses. Stalker 2, c'est plus JK. Senua's Saga, sur lequel je suis un petit peu incertain. Final Fantasy XIV Down Trail, c'est le deuxième jeu spécial Kassim, et World of Warcraft The War Within, qui là, pour le coup, parle un petit peu à beaucoup de gens dans la communauté. Mais ça fait quand même de la matière, hein, répartie dans toute l'année. Il y a des choses. Qu'est-ce qui t'excite le plus dans tout ça?
Bah écoute, Star Wars Outlaws, est-ce qu'il sortira vraiment l'année prochaine? Déjà, on ne sait pas.
C'est ce qui est prévu, ça, mais...
Ils ont confirmé 2024. Ah, ils ont... Oui, ok. Bon, si c'est confirmé, bah quand même celui-là, enfin... Bon, ok, la démo qu'on a vue, c'était une vertical slice, enfin, c'était une démo typique d'une annonce type Summer Game Fest avec... qui reflète pas complètement ce que sera le jeu, je pense, mais bon, c'était quand même très impressionnant. Donc, je suis quand même assez emballé sur Star Wars Outlaws, sachant que c'est le studio, j'ai un trou de mémoire, The Division 2, comment il s'appelle ce studio?
Ah,
je sais plus.
Je vais regarder, continue.
Bon, c'est pas grave.
Mais on parlait d'Ubisoft, là, pour le coup, c'est leur gros jeu.
Massive,
quoi.
C'est massive.
Merci.
C'est chez Massive. Voilà. Alors après, effectivement, dans les jeux, avec un gros point d'interrogation, mais quand même...
Attends, juste sur Star Wars Outlaws, je seconde ton avis et j'y mettrai moins de pincettes et de précautions. C'est difficile, de ce qu'on a vu, de ne pas être excité par Star Wars Outlaws. Alors évidemment, ça se trouve, ça ne sera pas bien. Mais enfin, de ce qu'on a vu, ça a l'air hyper bien. Ça a l'air vraiment très, très cool. Bon, c'était une présentation qui était hyper réussie. Si ça suit ça, je pense que ça sera au minimum un des gros jeux de l'année. Maintenant, on verra si ça suit.
Oui, non, clairement. Deux jeux que j'attends, mais avec quand même un point d'interrogation sur le résultat final, c'est Avowed et Stalker. Stalker 2, il a été repoussé plusieurs fois. Malheureusement, on sait que c'est un développement compliqué. C'est un jeu qui est développé en Ukraine. Donc, c'est évidemment très compliqué. J'y avais joué à la Gamescom. Tu te souviens, j'en avais peut-être un peu, j'en avais parlé.
Ouais.
La démo était malheureusement pas hyper convaincante. Mais bon, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de... Parce que voilà, c'est un univers qui est super. On verra. Avowed, c'est parce que c'est Obsidian. Et qu'Obsidian... en fait, le problème d'Obsidian, c'est qu'ils font des jeux souvent très bien écrits, mais qui sont un peu pétés techniquement, quoi. On va voir si... Et puis surtout, là, ça fait... Ici, il y a eu Pentiment. Mais bon, Pentiment, c'était un petit projet, on va dire, au sein du studio. Celui-là, ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler. Je pense pas que... Enfin, je veux dire, ceux qui s'attendent à un Skyrim vont être déçus. Je pense que ça n'aura pas l'ampleur d'un Elder Scrolls, tu vois. Ça va être un action RPG peut-être un peu linéaire. Enfin, je pense que voilà, faudra pas s'attendre à quelque chose de fou. Mais par contre, si c'est bien écrit et qu'il y a des systèmes de jeu qui sont chouettes, ça peut être vraiment intéressant. Et moi, le troisième que j'attends quand même.
Attends, juste sur Avowed, il y a deux choses. Alors, Outer Worlds était sympa et apprécié des fans du genre. J'imagine qu'on va avoir un petit peu un Outer Worlds avec des épées ou peut-être un petit peu mieux, ce qui est pas mal, ce qui est sympa, ce qui pourrait être une... Ça dépendra de la date de sortie, tu vois. S'il sort au milieu de plein d'autres gros trucs, ça sera compliqué. Mais s'il est un petit peu seul, ça peut faire un truc sympa. Par contre, je commence vraiment à m'inquiéter pour les capacités de Xbox et de Phil Spencer, qui personnise la marque, à... bien gérer le développement des jeux. Et bon, enfin, évidemment, toutes les sorties de ces dernières années ont été problématiques d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est presque plus ça que le développeur et le développement du jeu lui-même qui m'inquiète, même si les deux peuvent être indépendants. Et donc, alors, à la fois sur Avowed, sur Stalker, sur Senua's Saga, je suis un petit peu... comment ça va se passer, quoi.
Disons que 2024, c'est vraiment là, pour moi, c'est l'année où ils vont vraiment devoir transformer les faits, mais montrer que oui, ça y est, c'est bon, on arrive avec des jeux. Mais effectivement, et donc si effectivement Avowed est raté, si Hellblade 2 est raté...
Alors, le truc de Hellblade 2, c'est que... Alors, ça a l'air d'être un jeu hyper ambitieux, mais ça reste un jeu d'auteur. Je sais pas si les gens se souviennent de ce que c'était que Hellblade. C'est pas un blockbuster. Peut-être qu'ils l'ont, que c'est plus un blockbuster que le 1, mais le 1, c'était une étude hyper intéressante de la...
Sur la santé mentale.
Oui, sur la santé mentale, sur la... Ah ! Regardez une vidéo dessus.
La schizophrénie ou... Non,
c'est pas, non, c'est pas de la schizophrénie. Enfin bref, et tu entends des voix et sur la... Ah putain, j'ai le mot qui m'échappe. Bref, mais c'était un jeu qui était profondément... qui était inconfortable, qui n'était pas un jeu vraiment d'action, genre blockbuster, machin. Et je suis pas sûr que... c'est quoi, c'est Team 17? Je sais plus le nom du développeur.
Non, c'est... Oh bah d'accord, j'ai un trou de mémoire aussi. Ninja Theory,
voilà. Oh, putain, on y arrive.
Ninja Theory.
c'est pas Worms et c'est pas les... Bref. Ninja Theory, tu vois, je pense pas que tout à coup ils se sont dit, ils vont se mettre à faire un blockbuster pour faire plaisir au grand public quand ils ont une démarche aussi radicale avec Senua's Sacrifice. Mais bon, on verra. Ce que ça veut dire, c'est que le gros jeu Xbox de ce qu'on en sait aujourd'hui l'année prochaine, c'est Avowed. Et il y a à peu près que ça, tu vois. Même s'ils ont un partenariat avec GSC, je vois pas grand chose d'autre, moi.
Ouais, c'est fou. Ouais,
tu vois, il y a quoi ? Alors, il y a plein de jeux qui sont prévus et peut-être qu'il y en a qui seront datés sur 2024. Mais à ce stade, sur 2024, c'est le... Pas le désert, mais...
Techniquement, ça peut être aussi World of Warcraft et Call of Duty. Hein.
Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai, t'as raison.
Maintenant, n'oublions pas que c'est dans l'écurie Microsoft. Hein. Donc, mais bon, tu vois, typiquement, Hellblade 2, ça peut être... Potentiellement, ça, de mon côté, en tout cas, par rapport à ce que ça me propose et tout, ça pourrait presque être un GOTY, tu vois, si vraiment le truc est hyper réussi en termes de narration. Mmh. S'ils améliorent le gameplay, parce que le gameplay du premier, il était pas fou, quoi. Enfin, t'y jouais vraiment pas pour ça, quoi.
C'était pas là qui était la force du jeu, quoi.
Là, l'ambiance a l'air quand même hyper, hyper cool. Enfin, hyper cool. Pas cool du tout, plutôt étouffante et assez dramatique. Mais bon, c'est ça qu'on attend d'un jeu comme ça, quoi.
Mmh. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, il y a des jeux qui étaient un petit peu obscurs ou réputés niche qui ont fait des chiffres énormes. J'ai pas l'impression que Hellblade s'inscrive dans cette lignée, mais peut-être. Hein, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis Final Fantasy XIV d'entrée, bon voilà, c'est pour les fans de Final Fantasy XIV. World of Warcraft de War Within, c'est pour les fans de World of Warcraft. On verra ce qu'ils donnent tous les deux, je suis sûr qu'ils trouveront leur public.
Exactement.
Et puis dans les jeux indés, ce qu'on a noté, il y a une grosse quantité de titres quand même. En vrac, il y a The Alters, The Plucky Squire, Skate Story, 33 Immortals, Baby Steps, Beastie Ball, Hyper Light Breaker, Rift of the... Non, pourquoi Rift of the Necronancer ? Si, pardon. Et
c'est la suite de...
C'est la suite, ouais. Et Hades 2, qui arriverait normalement en Early Access 2024, qui pour le coup... Alors, jeu indé, pas jeu indé, on va repartir dans ce débat. Est-ce qu'il y a des trucs que tu notes là-dedans dans cette série ?
Ouais, quand même pas mal. Plucky Squire, parce que j'avais l'occasion de le voir à la Gamescom et que ça a l'air vraiment super, super cool, super prometteur, super mignon. The Alters m'intrigue pas mal parce que alors je l'ai pas vu à la Gamescom mais j'ai Kevin mon collègue qui l'a vu et qui a été assez intrigué par le truc et surpris.
C'est une faut rappeler un peu de quoi il s'agit.
Ouais, alors c'est un sorte de jeu de gestion où tu vas en fait gérer une colonie mais de clones de toi-même. C'est ça qui est très étrange. Et en fait, mais sauf que chaque clone a une personnalité et une histoire différente. Et en fait, il y a tout un délire là-dessus où tu vas. C'est à la fois un jeu de gestion et à la fois un jeu narratif. Voilà, je me lance pas trop dans une description complète parce que moi-même, je suis pas sûr vu que j'ai pas vu le jeu.
Non, mais le pitch du jeu, c'est que tu es sur une planète. Enfin, je sais pas si c'est sur Mars ou genre dans l'espace.
C'est plus une station. C'est pas une station spatiale. C'est une station
peut-être,
spatiale.
Ouais. Dans l'espace et tu as des clones de toi-même qui ont différentes spécialité et tu peux les réveiller, les réanimer quand tu as besoin de cette spécialité. Mais du coup, j'imagine qu'il y a peut-être un aspect roguelite ou des parties différentes ou j'en sais rien. Mais du coup, chacun est toi, mais avec une personnalité différente. On a l'impression qu'ils sont un peu paranoïaques. Est-ce que machin ? Est-ce qu'il veut ceci ? Et c'est toi, mais sans être toi. Donc ce pitch de base est intrigant. Ensuite, est-ce que le jeu est réussi en jeu de gestion, en narration, tout ça, c'est tout l'enjeu, mais ouais, il y a quelque chose d'intrigant là-dedans.
Bah, c'est ça, ouais. C'est développé par Elementbeat Studio, donc qui ont fait The Invisible, qui font
Frostpunk, non
Tomateur, Frostpunk, voilà, et donc c'est vraiment.
Histoire of Mine.
Voilà, qu'on une personnalité, c'est des jeux qui ont de la personnalité, tu vois, vraiment, qu'on un truc en plus, c'est pas juste un city builder lambda, tu vois.
Children of Morta, l'un des jeux les plus méconnus.
Ah, c'est chez eux.
Ouais. Alors, je me demande s'ils n'étaient pas éditeurs uniquement, plutôt que. Ouais, c'est ça. C'est Deadmage qui a développé et eux qui ont publié. Mais tu vois, ils ont un certain choix. Les autres jeux, peut-être que c'est pas eux qui les ont développés aussi. Les Sword of Mine, c'est peut-être pas eux qui ont développé. Si, c'était eux directement. Mais donc, tu vois, ils ont quand même un certain œil.
Mais c'est ça, c'est à la fois un éditeur et un développeur, maintenant, ils viennent vite. Hein, c'est... Ouais. Par exemple, là, alors, on l'a pas mis, mais comme je suis en train de regarder, il y a un jeu que pour le coup, j'attends vraiment, mais je pense que ça, j'espère que ça va être bien, c'est Indica. Je sais pas si tu te souviens, c'est cette espèce de truc très chelou où ça se passe dans une Russie alternative au 19e siècle. Mmh. Tu incarnes une nonne qui va voyager à travers cette Russie-là en compagnie du diable. Et franchement, le trailer, il était vraiment, vraiment très intriguant et super beau. Et ça a l'air... moi, je sais que c'est complètement bacard. C'est, quoi, donc,
c'est pas basé sur... Comment s'appelle le truc avec le chat Begemoth? C'est un classique de la littérature...
Possiblement, ouais. Ils en parlent pas dans la description. Non. Là, je regarde.
Bon, bref, peut-être.
Mais voilà, typiquement Indica, et ça sort après au premier trimestre. Donc, tu vois, ça fait partie de ces trucs hyper indés, mais que je surveille de près.
C'est Master and Margarita avec Begemoth. Ouais. Bref. Donc, c'est bien ça. C'est Bulgakov. J'ai googlé très vite et ça m'évoque d'accord, ça un petit peu, tu vois. Donc, ok, il y a ça aussi. Donc, d'autres jeux.
Non, mais après, je t'avoue, je sais pas trop quoi penser d'Hades 2 parce que. En fait, je demande qu'à être convaincu, mais je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à faire un Hades 2. Surtout que le studio n'a jamais fait de suite, je crois. Alors, vu le carton énorme de Hades 1, ils auront tout intérêt à le faire, évidemment. Mais
je vais tout de suite ressortir mon petit effet sonore que tu connais bien. Ils n'ont jamais fait de suite, mais à un moment, ils se sont dit « Ah merde, c'est trop faible ».
Imaginez, je vois tout à fait.
Tu vois lequel. Mais on aime l'argent. Ils se sont dit ça, et donc ils en font un deuxième.
Ouais.
Je suis d'accord.
Oui, bien sûr. Et donc, je sais pas. Je demande qu'elle convaincue, mais bon, ce sera à surveiller. Hyperlight Breaker.
Sur Hades 2 aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, Hades 1 était un tel triomphe que tu ne peux pas ne pas être excité à l'idée... Enfin, que moi, je ne vais pas parler pour toi, mais je ne peux pas ne pas être excité à l'idée d'un Hades 2. De toute façon, je vais l'acheter. De toute façon, je vais y jouer. Et ça se trouve, je serai déçu. Mais c'est impossible de ne pas se dire bah, ça va être au moins assez cool, quoi. Ça sera un bon moment. Même s'il ressort Hades 1, le fait de rejouer à Hades 1, je pourrais juste rejouer à Hades 1, mais en jouant à Hades 2, ça sera l'opportunité de le faire et je serai content, quoi, au minimum. Oui, tu disais Hyperlightbreaker.
Hyperlightbreaker, ouais, parce que c'est vrai que le précédent, enfin Hyperlight Drifter, c'est un jeu que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé à l'époque. Il commence à être vieux maintenant. Hein, Hyperlight Drifter, c'est ça. Oui. Et là, je me souviens plus à quoi le jeu ressemble.
C'est une version 3D de.
Ouais, voilà. Alors. 3D. Ouais, alors le fait de faire ça en 3D, je sais pas, faut voir. Mais je trouve quand même que je vais jeter un œil celui-là parce que voilà le Drifter était vraiment hyper péchu, hyper réussi. Dans les indés, sinon après de toute façon c'est souvent le principe de l'indé, c'est que il y aura plein de jeux indés qui vont sortir de nulle part et que moi en tout cas je vais probablement aimer. Enfin tu vois, l'année dernière on avait eu j'ai eu des jeux surprises comme The Wreck ou des carnations, des trucs comme ça qui sont comme ça. Bah, même si des carnations j'en avais déjà entendu parler, je demande qu'à être surpris avec l'indé, justement c'est tout l'intérêt de la scène indépendante, quoi.
Skate Story qui a l'air assez trippant pour un jeu de skate, mais méga trippant même, qui m'intrigue. Baby Steps, bon, ça va être marrant, ça va faire des scènes rigolotes sur TikTok et sur Twitch.
C'est un jeu à streamer, ouais.
C'est ça. Beastie Ball qui a l'air marrant, c'est un Pokémon où il faut jouer au beach volley avec des beasties et les collectionner, bon, ça pourrait être rigolo. Mais surtout, celui qui m'intrigue, c'est 33 Immortals, donc 33 Immortels, où on a une sorte de roguelite comment je peux le décrire, en Hades ou Children of Morta, ce genre de Diablo-like, on va dire, sauf qu'on est 33 sur la carte en même temps, et ça peut être, alors ça peut être juste c'est marrant mais sans plus, et ça peut être super marrant. Vraiment. L'idée de se balader à 33 sur une carte comme ça et d'essayer de conquérir le donjon en coop, pas en compétitif, ça peut vraiment être hyper cool. Maintenant, on verra ce que ça donne comme tous ces jeux, mais c'est peut-être celui des indés que, qui me rend... Je ne vais pas dire que j'attends le plus, si on met Hades 2 de côté, mais même pas forcément que j'attends le plus, mais dont je suis le plus curieux. Donc, 33 Immortals.
Ouais, c'est vrai que j'en avais pas trop entendu parler. Déjà, c'est beau. Enfin, ça a vraiment une bonne tête. Mm. Ah, c'est du beau pixel art et tout. Franchement, ça a l'air chouette.
Ouais, ouais, ouais. Donc, à voir ce que ça donnera. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, après, on sait qu'il y a des jeux, par exemple, typiquement... Alors, je sais pas s'il a été annoncé pour 2024, mais il est montré mon tour Game Awards et le nouveau Motion Twin, donc les créateurs de Dead Cells, j'ai oublié le nom, et voilà, il y a le nouveau Motion Twin, il y a le nouveau... Alors, est-ce que c'est de l'indé? Il y a le nouveau jeu des créateurs de Ori. Là, je balance des
c'est
trucs
Windblown,
sans
avoir les noms. Le truc
Windblown,
mais on n'a pas de date, si je ne me trompe pas.
Voilà, ouais. Donc, bon, voilà, c'est on.
Ah,
on
si, si, pardon. Early Access 2024. Autant pour moi.
Ah, bah voilà.
Early Access donc, 2024. Donc, voilà, oui.
Très curieux de savoir s'ils vont réussir à. Parce que je veux dire, ça a été un tel succès, Dead Cells monstrueux.
Alors,
des années parce qu'ils en ont. Est-ce qu'ils vont pouvoir comment on fait pour enchaîner après avoir fait un succès comme Dead Cells, tu vois?
C'est compliqué et c'est intéressant à plus d'un titre parce que non seulement il y a tout cet aspect après le succès de Dead Cells, c'est compliqué de faire autre chose, et puis il y a tout l'aspect la boîte elle-même parce que on n'a pas eu. Je parlais d'enquête il y a quelques semaines dans l'émission. Ça serait intéressant de savoir ce qui s'est passé au sein de Motion Twin, parce que ça a été visiblement un gros bordel. Quand Dead Cells est sorti, c'était la scope où tout le monde est payé pareil, c'est le bonheur, tout le monde est égal, tout le monde est content. Et j'ai l'impression que c'était pas tellement le bonheur et tout le monde est content au sein de la boîte pendant très longtemps, quoi.
Non, mais disons qu'il y a l'un des fondateurs, je crois que c'est Sébastien Bénard, est parti.
Qui était venu dans l'émission d'ailleurs.
Qu'on avait reçu nos ZQSD aussi. Et surtout, en fait, je crois que...
Mais il n'a rien dit. Il disait juste, ah ouais, ça s'est pas bien passé.
Non, il n'a rien dit, bien sûr.
Et bien sûr, enfin, il est discret. Mais il faudrait qu'un journaliste s'y intéresse, parce que c'est une boîte française qui a eu un succès énorme, qui avait des ambitions. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé chez Motion Twin.
Apparemment, les problèmes viennent plus de la société.
Via Empire...
De Devil Empire, mais en fait les problèmes ont l'air de plutôt devenir Devil Empire, qui est une sorte de société sœur de Motion Twin, tu vois.
Mais même là, pourquoi Devil Empire? Est-ce que c'est la scope où ils ne pouvaient pas faire certaines choses, donc ils ont fondé Devil Empire à côté, et du coup il y a eu des problèmes dans Devil Empire, mais tu dis tout va bien, enfin c'est pas de là que viennent les problèmes. Oui et non, il y a quand même eu une scission, des problèmes entre les fondateurs et entre les membres de la scope qui font que certains sont partis comme tu le disais, et puis pourquoi fonder une autre société alors que la scope fonctionne, tu vois, il y a plein de choses à explorer là-dedans et on sait pas, je sais pas pourquoi les gens ne s'y intéressent pas, quoi.
Ouais, bah parce que tout le monde, enfin je sais pas, ouais, peut-être qu'il n'y a pas forcément matière à faire, c'est difficile.
Ah si, probablement, il y a forcément matière, c'est l'un des plus gros succès du monde, des jeux indés de France, avec une formule de société qui est justement un truc un petit peu idéal dans un pays où on a ce genre d'idéaux, de vision de la société au sens social pour le pays et pour le modèle de travail. Si, il y a énormément, évidemment que c'est un sujet qui serait intéressant, évidemment. Mais bon, peut-être que les gens s'y intéressent pas.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si, ouais, peut-être que il y a très peu de gens qui sont prêts à parler. Peut-être que
effectivement. Oui,
peut-être que tout est verrouillé. Donc, j'imagine qu'il y a des gens, il y a des journalistes qui sont en train de bosser sur le sujet, mais
peut-être. Voilà, oui, mais tu vois des gens comme Jason Schreier dont on applaudit le travail. Ils attendent pas qu'on vienne leur livrer les infos. Ils vont chercher, ils ont les trucs ouverts. Peut-être qu'effectivement, tout est verrouillé chez Motion Twin. Franchement, je doute qu'il soit impossible de trouver des anciens employés. Et même pas, c'est pas genre qu'ils livrent des secrets sales sur le truc. C'est pas ça l'idée. C'est juste de comprendre ce qui s'est passé. Bon, bref. Ça serait intéressant. Comme pour les histoires de chiffres sur les crises dans le jeu vidéo dont je parlais il y a deux semaines, il y aurait des choses intéressantes à creuser, quoi. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Je voudrais savoir ce qui s'est passé chez Motion Twin. Mais ceci dit, Windblown, évidemment, qu'on l'attend et qu'on est curieux de voir ce que ça va donner. Tu évoquais un autre jeu aussi, Avant qu'on...
De quoi je parlais ? Bah oui, si, le nouveau jeu des créateurs de Ori, du créateur de Ori, c'est... Ori de Manifest, c'est... je sais plus, c'est le studio, c'est de Moon Studio.
Voilà,
Moon Studio, et le jeu s'appelle... et franchement, le trailer qu'on a vu au Game Awards était vraiment chouette. On voit un peu de gameplay en plus.
No Rest for the Wicked.
No Rest for the Wicked. Et ça a vraiment une gueule incroyable. Donc, alors, je sais pas s'ils ont confirmé la sortie en 2024, hein, pour le coup. Donc, pour ça, on va pas
Je crois pas. Ils ont juste donné le titre, pour le coup. Il y a le Wicked Inside qui arrive, je sais plus quand, enfin, en milieu d'année, en mars, je crois, ou un truc du genre. Pour nous en dire plus, peut-être qu'on aura une date ou un early access ou ce genre de choses à ce moment. Mais oui, bon, pourquoi pas. C'est le 1er mars, voilà, le Wicked Inside. D'accord. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Ouais, à voir. Non, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, après, sur les jeux, en tout cas sur les jeux indés. Enfin, voilà, encore une fois, on verra les surprises et les jeux qui sortent de nulle part. Et puis voilà, quoi.
Ouais. 2024 s'annonce plutôt cool déjà, et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Vraiment, je pense que c'est l'une des années sur lesquelles on a le moins de visibilité par rapport à ces dernières années. On a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de choses dont on ne sait pas qu'elles vont arriver, et on le sent parce que, comme je disais, PlayStation et Nintendo, enfin Sony et Nintendo, ont quasiment rien dit sur rien. Là, il n'y a pas de jeu Sony à part Destiny, on va dire. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver, donc... Excitant tout ça. Merci Jika d'avoir passé ce moment avec moi. Merci. Bonne année. J'ai oublié de te le dire en début d'émission et de le dire aux auditeurs.
On va se dire bonne année effectivement. Et merci de m'avoir fait une piqûre de rappel sur 2024. Là du coup j'ai bien la big picture comme on dit. en espérant que qu'on va continuer à bien jouer en jeu vidéo en 2024, mais je pense que...
Oui, je crois
ça devrait être bien parti.
Il y a beaucoup de questions qui se posent dans de nombreux domaines, y compris dans le jeu vidéo et dans cette industrie, mais une chose qui est à peu près certaine, c'est qu'on va passer de bons moments devant les jeux vidéo. Ça, je n'en doute pas.
Exactement.
J'espère que... et n'oubliez pas, bien sûr, ZQST, Giga Logret, sur Twitter et ailleurs. Et puis dans l'émission, évidemment, régulièrement, deux fois par mois. Pour ma part, c'est notre Patrick, bien sûr. Et j'espère que vous passerez un excellent 2024, que nous continuerons à passer de bons moments ensemble, qu'on continuera à s'amuser sur le Discord. Et on se retrouve, du coup, dès la semaine prochaine pour le vrai lancement de cette année. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.